Je vous invite à ouvrir votre Bible aux Lamentations de Jérémie. Je ne savais pas que Samuel lirait en Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. » Je ne savais pas que ce mois-ci vous aviez un séminaire sur le chrétien et la souffrance, mais c'est précisément le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Conseil pour un abattu. Si vous êtes abattu, et ça arrive quelquefois qu'on soit abattu, complètement découragé, déprimé même, la dépression est une réalité chez des chrétiens. Et ça ne les rend pas moins spirituels pour autant. Attention à ceux qui vous disent, si vous passez par un moment de blues, si vous passez par un moment de déprime, c'est que vous avez péché, vous êtes dans le péché, Dieu veut que tous ses enfants soient toujours au top, toujours joyeux, toujours à la victoire. Dans la parole de Dieu, ce n'était pas le cas. Lisez les psaumes, vous verrez un David complètement au fond du trou. Vous verrez un Jérémie dans ce passage complètement abattu, et pourtant c'était un homme dirigé par l'Esprit, un héros pour nous aujourd'hui. Et ce ne sont que ceux qui sont vraiment abattus, ceux qui sont déprimés, ceux qui sont passés par ces moments très difficiles, qui peuvent nous comprendre et qui peuvent nous conseiller. Et c'est ce que veut faire Dieu à travers sa parole ce matin, par son esprit, car c'est l'esprit de Dieu qui a inspiré les lamentations de Jérémie. Et les lamentations, et la consolation. Alors peut-être ce matin, vous trouverez dans les lamentations de Jérémie, vous allez vous dire, oui, c'est comme ça que je me sens, mais je n'aurais pas su le dire aussi bien que lui. Eh bien, prenez ces paroles. Et s'il le faut vous lamenter, lamentez-vous devant le Seigneur. Ça ne le gêne pas qu'on vienne pleurer devant lui, pourvu qu'on l'écoute et qu'on lui permette de nous parler. Et puis, les consolations que donnera Dieu à travers sa parole, prenez-les aussi pour vous-même. Si vous êtes ce matin abattu, ou si dans l'avenir, vous le serez, ou si dans le passé, vous l'avez été. Nous lisons à partir du verset 18 de Lamentations chapitre 3. On lira jusqu'au verset 33. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute aspirance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Prions. Notre Dieu et Père, nous venons de lire un passage de ta sainte parole, cette parole si pure, cette parole si bienfaisante, inspirée, riche pour nous. C'est toi qui veux nous parler ce matin. C'est toi qui réclames le silence dans notre cœur. Tu veux nous parler parce que nous en avons besoin. Et parce que c'est ton rôle en tant que Père céleste de parler à ses enfants dans leur intimité, au fond de leur âme, pour les orienter dans la bonne direction, pour les corriger, pour les consoler. C'est ce que nous te prions de faire ce matin, par Jésus-Christ. Amen. Dans la littérature du monde, il n'y a presque aucun écrit qui puisse se comparer aux lamentations de Jérémie. Même les gens qui ne croient pas en Dieu disent « Les lamentations de Jérémie sont presque inégalées dans toute la littérature du monde pour la beauté littéraire, pour la profondeur de la pensée. » Dans la culture sémitique, qui était la culture de Jérémie, cette culture juive, il était coutumier de rédiger des plaintes, d'écrire des plaintes et de les chanter lors d'un deuil. Aujourd'hui, l'homme moderne, on se trouve muet comme des carpes devant la souffrance. Comme une fois on entend, je suis allé, j'ai voulu entourer les gens, mais je ne savais pas que dire, alors j'étais bête, j'ai me trouvé là, je ne savais pas ce qu'il fallait dire, j'ai préféré ne rien dire. On est là à se regarder, à donner une petite tape sur l'épaule, mais on est bien ennuyé quand il s'agit de faire le deuil ou d'accompagner quelqu'un dans son deuil. Et parfois, il ne faut rien dire. Mais les Juifs, ils méditaient sur le deuil, ils écrivaient des complaintes, ils les chantaient. Pour une personne très chère, on pouvait se lamenter et faire le deuil officiellement pendant 40 jours. C'est le cas au décès de Jacob. Les Égyptiens ont accompagné Joseph et ses frères. Ils sont remontés pour enterrer Jacob. Ils ont fait 40 jours de deuil. Et les Palestiniens qui étaient là disaient, quel grand personnage ça doit être pour avoir un deuil si long. Il y avait des pleureuses professionnelles. Des femmes qui étaient payées pour venir pleurer, chanter, faire des complaintes et pleurer. Et celui qui avait des moyens, eh bien, il amenait beaucoup et il y avait de fortes lamentations. Il fallait surtout, dans cette culture sémitique, que ce soit très très fort, très très volubile. Il fallait vraiment que les gens expriment leur désespoir, leur tristesse. Et cela, c'était une consolation pour ces orientaux. Nous n'avons pas cette habitude, mais nous avons parfois des moments de deuil. Nous avons des moments de déprime, nous avons des moments de profond découragement. Qui ici pourrait dire, je n'ai jamais connu un moment de passage à vide. Je n'ai jamais été découragé. Qui peut le dire? Peut-être quelques enfants. Mais si vous êtes adulte, vous avez sûrement connu des moments très très difficiles. Quelle est la situation du peuple ici? Pourquoi Jérémie est-il tellement attristé? Eh bien, l'Éternel avait appelé son peuple d'Israël à venir vers lui en abandonnant le culte d'idoles. Depuis 200 ans, ils adoraient des veaux d'or, ils adoraient Baal et des Astartés, des dieux palestiniens, des dieux du pays. Ils avaient pris ces idoles comme leurs dieux et ils avaient abandonné l'adoration à l'Éternel. Ou pire encore, ils adoraient l'Éternel, les jours de fête de l'Éternel, et puis ils allaient adorer Baal, puis ils allaient adorer les Astartés, puis ils faisaient un tour du côté des veaux d'or et les adoraient aussi depuis 2 siècles. Vous imaginez la jalousie, la colère, la tristesse de Dieu devant cette idolâtrie. Alors Dieu leur a envoyé tout un long cortège de prophètes. Jérémie était le dernier de cette série de prophètes qui les avait appelés à revenir à l'Éternel. Sinon, ils connaîtraient un châtiment terrible. Déjà avant Jérémie, Dieu avait envoyé toute une série de plaies et de malheurs sur le peuple d'Israël. Des sécheresses, des invasions de sauterelles. Enfin, c'était terrible. Ils ont eu des terribles plaies de par l'Éternel. Et Dieu disait, revenez à moi. Revenez, abandonnez vos idoles, revenez, je voudrais vous bénir, mais vous m'en empêchez. Rien à faire. Le peuple continuait dans sa rébellion. Alors Dieu décide d'envoyer le châtiment suprême, un châtiment qu'il leur avait prédit en Deutéronome chapitre 28. Le châtiment suprême que Dieu pouvait envoyer pour punir son peuple, c'était de leur envoyer une armée étrangère qui envahirait le pays, qui assiégerait toutes les villes et qui ferait mourir des habitants par une terrible famine et qui briserait les murailles de ces villes fortifiées et qui massacrerait les habitants et qui en amènerait une partie en captivité, en exil. C'était le suprême châtiment. Et Dieu charge Jérémie de leur dire, ça y est, ce suprême châtiment est en route. L'armée babylonienne est en marche. Ils viennent par le croissant fertile, ils vont descendre par le Liban, ils vont vous envahir. Pendant 25 ans, Jérémie annonce ce malheur. Et ce qui était terrible pour lui, c'est que Dieu lui a dit, tu resteras là dans Jérusalem et tu seras témoin de ce malheur. Tu verras de tes yeux cette invasion, tu verras de tes yeux cette famine, tu verras la punition que je vais envoyer à mon peuple. En plus, Jérémie était un homme extrêmement sensible et émotif. Si vous êtes sensible, émotif, si vous pleurez facilement, dans ce monde moderne, on dit, mais vous êtes trop sensible, allez, il faut être un peu plus dur. On vit en culte à des gens qui sont durs, qui savent faire. Et voilà. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu recherche, qu'on puisse tout vivre sans verser une larme. Dieu est sensible, très sensible. Et nous devrions l'être aussi. Parfois, on ne veut pas être sensible parce qu'on a peur de souffrir, on a peur de pleurer, on a peur d'être déçu. Jérémie était donc sensible et l'armée est autour maintenant de Jérusalem. Il voit la fin approcher, son cœur est brisé. Son cœur est brisé. Voilà la situation dans laquelle se trouve Jérémie. Et si nous nous mettions dans sa peau, ben on aurait le même langage que lui. La tristesse, l'abattement. Quelle est sa situation personnelle? En Jérémie chapitre 3, il nous la décrit un petit peu. Par exemple, dans le verset 6 et 7, il me fait habiter dans les ténèbres. Verset 7, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Jérémie est enfermé dans une cour de prison quand il écrit ses lamentations. Il est prisonnier. Parce qu'il avait dit à son peuple, écoutez, vous avez désobéi à l'Éternel, l'Éternel envoie l'armée babylonienne, si vous vous soumettez au roi de Babylone, il vous préservera la vie. Si vous vous rébellez contre lui, il vous massacrera. C'est pour ça, acceptez comme venant de l'Éternel cette invasion de Babylone. Bien sûr, on l'a traité de traître. Mais où est ton patriotisme? Mais tu nous dis de nous coucher devant les Babyloniens, mais c'est quoi ça? Mais tu es peut-être à leur solde, peut-être ils t'ont payé pour dire cela. Donc ils passent pour un traître. Alors que c'est le plus patriotique de tous les hommes. Et on le met en prison. Quelle souffrance d'avoir un amour pour son peuple et d'être perçu par ce peuple comme un homme de haine. On le traite comme un homme de haine, alors que c'est un homme d'amour. Dieu vit la même chose aujourd'hui en France. Dieu aime tellement les gens, et les gens disent, Dieu ne veut rien savoir de lui. Ils ont une très mauvaise opinion de Dieu. Ne me parlez pas de Dieu! N'est-ce pas? Combien le malentendu, combien la souffrance du Seigneur est extrême dans le monde, encore aujourd'hui, et depuis tout temps. Il souffre parce qu'il donne la parole de Dieu à son peuple. Il souffre parce qu'il est obéissant à Dieu. C'est un comble. Il est le prophète de Dieu, il dit la parole de Dieu, et il souffre parce qu'il dit la vérité. C'est ce qu'il dit, versets 10 à 14. Il dit, verset 14, « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. » On se moquait de lui. Alors qu'avec larmes, il plaidait avec eux. de revenir à l'Éternel. Il dit en quelque sorte, verset 10, « Il a été pour moi, Dieu a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. » Il dit en quelque sorte, « Seigneur, tu m'as piégé. Tu m'as obligé à devenir un prophète. Et depuis que je suis prophète, depuis que j'ai accepté de te servir, je n'ai que des souffrances. Je me sens piégé quelque part. » Ne jetez pas trop vite la pierre sur Jérémie. Ne le critiquez pas trop vivement. Cette souffrance, c'est la souffrance qu'a connue tous ceux qui ont annoncé la parole de Dieu devant des gens rebelles. Des gens qui ont souffert parce qu'ils ont été obéissants. Quelle est la situation de Jérémie? Il est dans le deuil à cause... Il prédit, les Babyloniens vont venir sur vous. Les Babyloniens viennent. Jérémie n'est pas du genre à dire, ah, je vous l'avais dit, hein, je vous avais prévenu, hein, ils sont venus, hein. Non, pas du tout. Lui-même est le premier à pleurer de les voir arriver. Seigneur, quel malheur! Il est désespéré de voir ces Babyloniens venir. Il est désespéré de ce que sa prédiction se réalise. Il est triste. C'est pas du tout quelqu'un qui est triomphant, qui... Non, son cœur est brisé parce qu'il aime son peuple. Il souffre avec son peuple. Vous savez, c'est exactement comme peut-être plusieurs ici ont connu ceci. Vous avez un enfant. Cet enfant a grandi. Cet enfant a fait de mauvais choix. Vous lui avez pourtant dit, ne prends pas cette route, ne prends pas ce chemin, je t'en supplie, tu vas au-devant du malheur. Et votre enfant a quand même pris le mauvais chemin. Et votre enfant souffre aujourd'hui de son mauvais choix. Que lui dites-vous? Je te l'avais dit, hein? Il fallait m'écouter maintenant, hein? Tu vois comment? Non, jamais. On va pleurer avec son enfant. On ne peut pas se réjouir de son malheur. C'est exactement le cas dans lequel se trouve Jérémie. Il pleure avec son peuple du châtiment. Il pleure à cause de sa rébellion. Il pleure parce qu'il les aime, tout en les avertissant du jugement de Dieu. Jésus a fait la même chose. Montant sur Golgotha avec sa croix sur son épaule, il s'est retourné pour contempler cette ville de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit à cette ville de Jérusalem? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien j'aurais voulu vous rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins, et vous ne l'avez pas voulu. Et Jésus annonce comme Jérémie, voici votre maison, vous serez laissée déserte. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Comme Jérémie a annoncé l'invasion des Babyloniens, Jésus-Christ a fait comprendre aux Israélites que l'armée romaine viendrait bientôt les ravager à cause de leur rejet du Messie. Mais ce n'était pas avec joie, c'est avec des larmes qu'il les a prévenus. Alors, on arrive au comble du désespoir dans le verset 18. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Maintenant, je vais vous encourager. Dans ce message, nous avons touché le fond. Maintenant, on est tellement plus bas, il n'y a qu'une seule direction où ça peut aller, vers le haut. Quand vous êtes au fond du trou, pensez à ceci, ça peut vous encourager. Je ne peux pas descendre plus bas. Maintenant, la seule direction que ça peut prendre, c'est vers le haut. Pour le chrétien, il peut aller au fond du trou, mais il n'est pas obligé d'y rester. Parce que nous avons Dieu dans notre cœur, parce que nous connaissons le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que nous avons la parole de Dieu pour nous aider, pour nous éclairer, nous ne sommes pas obligés de rester au fond du trou. Nous pouvons en sortir. Nous pouvons trouver la consolation. Regardez ce qu'il dit. Et c'est la recette pour nous quand nous sommes abattus. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce que je veux repasser en mon cœur. Que dit Jérémie ici? Il dit, Seigneur, je suis abattu, mais je prends la décision de réorienter mes pensées. Seigneur, je veux changer ma manière de penser. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de changer votre manière de penser? Nous sommes ce que nous pensons. Physiquement, hein, on est un peu ce que nous mangeons, hein, ce que nous respirons. On est un peu ce que nos parents ont fait génétiquement. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais spirituellement, nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons critique, méchanceté, tout ça, amertume, vengeance, revanche, on va devenir quelqu'un d'amer, quelqu'un de difficile à vivre, quelqu'un de pénible. Si nous pensons plainte, pitié de soi-même, on deviendra infréquentable. Personne ne voudra parler avec nous. Mais ici, il dit, je veux passer et repasser dans mon cœur les vérités qui m'aideront à m'échapper de ce désespoir. Je suis dans le désespoir, mais il y a des vérités que si je les médite, si je les passe et je les repasse dans mon cœur, je vais sortir de ce désespoir dans lequel je me trouve. Il est encore dans le désespoir, mais déjà Jérémie dit, je peux en sortir en changeant ma manière de penser. Frères et sœurs, si vous oubliez toute autre chose ce matin, souvenez-vous de ceci. Votre santé spirituelle, ma santé spirituelle, c'est une affaire des choses auxquelles nous pensons. Et comme dit Jérémie ici, je veux passer et repasser dans mon cœur. Nous avons la capacité de penser autrement. Nous ne sommes pas esclaves de nos pensées. Nous pouvons changer nos pensées en les nourrissant notamment de la parole de Dieu. Regardez, il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, ce n'est pas sortir de l'épreuve. Ça serait bien, hein? J'aimerais sortir de cette épreuve. Ça ne peut plus durer. Est-ce que vous avez jamais dit dans une épreuve, ça ne peut plus durer, je ne supporte plus, ça ne peut pas continuer? Vous avez jamais dit ça? Est-ce que 5 minutes après, votre épreuve était terminée? Non. Peut-être vous en étiez à votre début. Alors, l'expérience est là pour nous dire, ce n'est pas parce qu'on dit j'en ai marre, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on parle, que l'épreuve s'en va. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Regardez Romains chapitre 8, une définition biblique de l'espérance. Nous sommes dans une épreuve, on dit ça ne peut pas durer, mais c'est quoi l'espérance? En chapitre 8, verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voilà maintenant verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance, selon la parole de Dieu, c'est la capacité de vivre dans l'épreuve. De vivre dans l'épreuve. Avec une attitude positive et persévérante. Tu es heureux, toi, aujourd'hui? Tout va bien? Ça va? Oui, ça va bien. Super, ça va très bien. Tout va bien. J'ai aucun problème. C'est beau. Ça va bien, toi? Ça va, oui. Grâce à Dieu. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit ça va grâce à Dieu, c'est que... Hein? Ben, j'ai quelques épreuves. Mais tous les jours, le Seigneur me permet de les supporter. Je sais qu'un jour, elles prendront fin. Mais j'ai la consolation de Dieu tous les jours. Je vis de cette consolation. Je peux dire, ça va bien. Ça va bien entre moi et Dieu. C'est ça l'espérance. C'est la capacité de porter une épreuve avec persévérance, avec une attitude positive et reconnaissante envers Dieu. Dans l'épreuve. C'est ça le caractère chrétien. C'est cette persévérance et cette capacité-là de vivre l'épreuve dans la joie. C'est ça qui alerte notre entourage que nous sommes différents d'eux. Quand tout va bien, le chrétien ne voit pas la différence entre un chrétien et un inconverti. Quand ça va mal, là, notre entourage voit la différence entre un chrétien et celui qui ne connaît pas Dieu. D'ailleurs, ils disent, mais qu'est-ce que tu as? Mais je ne comprends pas. T'es heureux et regarde comment ta vie, t'as des épreuves, je ne sais pas, à ta place, je serai au fond du trou. Comment tu fais pour être joyeux? Mais j'aimerais savoir ce que tu as. Là, c'est un témoignage de vie et d'attitude qui frappe les inconvertis. Et très souvent, ils se convertissent parce qu'ils voient ça en nous. Et c'est aussi une raison pour laquelle Dieu nous permet de passer par des épreuves. Il faut que Dieu se montre à notre entourage comme étant capable de nous soutenir dans nos peines et dans nos épreuves. Et dans nos épreuves, notre témoignage brille beaucoup plus fort, il est beaucoup plus authentique que lorsque tout va bien dans notre vie. Maintenant, nous ne souhaitons de malheur à personne, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas bien compris le message si vous rentrez chez vous, vous mettez à genoux, Seigneur, envoie-moi des épreuves autant que tu peux. Ne le faites pas. Il les dosera bien lui-même. Mais quand elles viennent, il dit, ça me donnera de l'espérance. Jérémie, il sait que les armées babyloniennes ne vont pas partir parce qu'il fait une petite prière. Il le sait. Il dit, Seigneur, comment je vais traverser ce moment difficile? Comment je vais supporter cette épreuve? Eh bien, tu me donneras de l'espérance par les vérités que je repasserai dans mon cœur. Alors, quelles sont ces vérités? Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Si vous deviez aller même à la Méditerranée, ne parlons même pas de l'océan Atlantique, juste la Méditerranée. La grande bleue. Vous allez avec une cuillère à café. Vous allez à Narbonne-Plage, c'est la plage la plus proche. Et vous dites, maintenant, je vais mettre la Méditerranée dans le massif central. Et vous commencez avec votre... Combien de temps allez-vous mettre à vider la Méditerranée? Quand on vient vers le Seigneur, et amener cette fois-ci une cuillère à soupe, ou même une louche. Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin de compassion, j'ai besoin au moins de deux ou trois louchées de compassion, même j'ai besoin d'une assiette à soupe, même une soupière entière de compassion. J'ai besoin d'une grosse dose de compassion et de bonté de ta part aujourd'hui. Approchez-vous donc de l'océan, de la bonté, de la compassion de Dieu, et voyez s'il y en a assez pour vous. Cette bonté et cette compassion sont infinies. Dieu n'est pas un Dieu dont la caractéristique principale c'est le jugement. Dieu est surtout connu par son amour, sa miséricorde et sa grâce. Ailleurs dans Jérémie, Dieu dit à Israël, si vous me résistez, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. N'imaginons pas que Dieu est dans le ciel en train de dire, bon, ce chrétien-là, il vient de faire un impair, il vient de faire une bêtise, je lui ai envoyé, alors, bam, une bonne claque, il va voir ce qu'il va recevoir, bam, bah, voilà, là, il souffre, c'est bien, là, il va, non, c'est pas comme ça que Dieu agit. Il pourrait. Il a les moyens de le faire, et on mériterait peut-être quelquefois qu'il ait cette attitude, mais ce n'est pas son attitude. Ce n'est pas volontiers qu'il afflige les hommes. Il le fait parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les toucher. Et quelquefois, dans nos circonstances, dans nos épreuves, si vous passez par une épreuve, dites-vous bien, peut-être Dieu veut m'enseigner quelque chose par cette épreuve et qu'il n'a trouvé aucun autre moyen pour me le faire comprendre. Alors, non pas, Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter cette épreuve? Plutôt, Seigneur, que veux-tu m'enseigner par cette épreuve? Et très souvent, c'est simplement développer notre caractère. Développer des trésors de patience que nous n'aurions pas sans cette épreuve. Ce n'est pas pour se faire plaisir que Dieu nous donne des épreuves. C'est pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est là tout ce qui l'intéresse. C'est son projet pour nous. Donc, il a une bonté, une compassion infinie. Et Jérémie dit, ça, je veux le passer dans mon cœur. Je vois l'armée babylonienne. Je vois le jugement de Dieu. Mais ce que je veux me souvenir de Dieu, c'est qu'il est surtout bonté et compassion. Ne sont pas à leur terme. Il a une compassion pour moi et pour tout mon peuple, malgré le jugement qui nous tombe dessus. Verset 23, il dit, « Elle se renouvelle chaque matin, ô que ta fidélité est grande. » Non seulement Dieu a une bonté, une compassion infinie comme la mer Méditerranée, comme l'océan, parce qu'on pourrait dire, il a un océan de bonté, « Seigneur, envoie-moi l'océan sur moi, verse tout le contenu sur moi aujourd'hui. » Ah, vous êtes inondé de compassion, de miséricorde. Wouh, vous sentez bien. Et le lendemain, Seigneur, est-ce que tu peux me le renvoyer? Il dit non, ça y est, j'étais versé l'océan hier, il n'y a plus rien aujourd'hui. Non. Il y a l'océan à notre disposition, il y en a pour tous les jours. Il y en a pour tous les jours. Vous aimez de bons repas? Moi, j'aime de bons repas, mais je n'aimerais pas avoir un bon repas par semaine. En disant, tiens, j'ai versé tout mon pension alimentaire pour un seul repas et maintenant, pendant 6 jours, je n'aurai rien. Non, préfère les repas plus simples, mais tous les jours. Dieu nous donne une portion de bonté, de fidélité, une belle portion bien généreuse tous les jours. Tous les jours, la compassion de Dieu se renouvelle. Ça veut dire, si le Seigneur vous a regardé hier et il vous a dit, pauvre enfant, je compatis à ton épreuve. Aujourd'hui, il ne va pas dire, écoute, je compatis à ton épreuve, je te l'ai déjà dit hier. Tu veux que je le répète tous les jours? Le Seigneur est là tous les jours, même si ça dure des années et des années, avec autant de compassion, autant d'empathie pour notre épreuve que le premier jour, alors que nous, on se lasse. Vous savez comment ça se passe? Vous avez toujours un dans une église. Comment ça va? Oh, ça va pas, j'ai une douleur par ici, puis j'ai ça, puis là, là. Pour la première fois, oh là là, vous êtes, oh mais c'est dommage, prions ensemble. La deuxième fois, vous le voyez la semaine suivante, ah mais maintenant j'ai, oh là là. Puis, au bout de 3-4 semaines, qu'est-ce que vous dites? Mais écoutez, il faut pas dire bonjour à cette personne-là, surtout, ne dites pas comment allez-vous, parce que vous allez pour une litanie de 3 mètres, là, et puis ça va prendre 3 quarts d'heure. Et tout le monde l'évite. Notre dose de compassion est assez limitée, vous ne trouvez pas? Mais Dieu, il a une vraie compassion pour nous. Alors qu'il pourrait ne pas l'avoir. Une compassion pour nous tous les jours. Jérémie dit, Seigneur, je sais que tu penses à moi et tu compatis à mon épreuve tous les jours. Ça se renouvelle. Verset 24, il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Jérémie aussi, c'était un lévite. Un lévite qui n'avait pas droit à une ferme, à une propriété personnelle. Dieu a dit, la tribu de Lévi, c'est moi qui suis leur héritage. Ils vivaient des offrandes du temple. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de l'immobilier. Ils vivaient dans des maisons, dans des villes sans ferme. C'était la seule tribu dont l'Éternel était l'héritage. Et c'est beau que ce lévite, il dit, Seigneur, tu es mon héritage. Tout ce que j'ai, c'est ma relation avec toi. Et tu es tout ce que j'ai. Et si tu es tout ce que j'ai, je dois tout attendre de toi. Ça, c'est une pensée profonde, mes amis. Si Dieu est tout ce que nous avons, nous devons tout attendre de lui. Vous dites, mais oui, mais moi j'attends tout de lui. Mais quand je vais au culte, j'attends quand même que les frères et sœurs m'entourent. J'attends quand même que tout le monde vienne me montrer de la compassion. Et vous y allez, mais là, je sais que c'est une église pleine d'amour et tout le monde aura bien compassion, tout le monde me demandera comment ça va, tout le monde me dira qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ne venez pas à l'église avec ces attentes-là. Vous serez déçus. La première fois qu'on va dans une église, oh, mais c'est des gens merveilleux, ils sont tous pleins d'amour, j'ai trouvé le paradis. Au bout de 6 mois, ouh, ces gens, ils ont des problèmes. Et je ne sais pas comment de tels énergumènes arrivent à se réunir dans une maison. C'est des hypocrites, c'est pas possible. Mais il y a des tensions, il y a des gens qui ne se supportent pas, il y a des gens qui... Au bout de 2-3 ans, vous dites, bon, c'est des pécheurs et ça tient ensemble par la grâce de Dieu. N'attendez pas, des frères et sœurs, la compassion que Dieu seul peut vous donner. Vous savez ce qu'est la codépendance affective? C'est quand quelqu'un a tellement besoin d'affection qu'il trouve à s'appuyer contre une autre personne qui a tellement besoin d'affection et il marche comme ça, l'un appuyé contre l'autre, tous les deux déséquilibrés. Et quand il y en a un qui dit « Ah, j'ai trouvé quelqu'un d'autre avec lequel j'ai un truc », boum! Si nous nous appuyons sur les gens, nous tomberons. Il dit, je m'appuie sur le Seigneur. Jérémie dit, j'attends tout de lui. Toute la compassion dont j'ai besoin, c'est lui seul qui peut me la donner. Les frères et sœurs, on est reconnaissant quand il nous aime, n'est-ce pas? On est reconnaissant pour une carte. On est reconnaissant pour un coup de fil. C'est merveilleux ça. Mais quand ils ne viennent pas, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Il faut se tourner vers le Seigneur. Toi, tu as promis que tu me comprendrais. Toi, tu as compris. Tu m'as promis que tu me consolerais. J'attends tout de toi. Je n'attends pas des autres. Comme notre pasteur nous a dit ce matin, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Ne vous confiez pas dans les chrétiens. Ce sont des hommes et des femmes comme vous, comme moi. Ne vous confiez pas, excusez-moi de le dire, aux pasteurs. Ils ne peuvent pas vous consoler comme vous avez besoin d'être consolé. Dieu seul peut le faire par son esprit. Alors, Dieu est tout ce que j'ai. Une autre pensée qui vient et qui le repasse versets 25 et 26. Il a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il dit, mais le Seigneur me secourra au bon moment. Il me secourra au moment voulu. Mais ce que Dieu apprécie, c'est que je l'attende patient et sans me plaindre, plutôt qu'une attitude d'impatience et de pitié de soi. Vous êtes un père. Vous dites à votre adolescent, je viens te chercher à la sortie de l'école à 5 heures. Je serai là à 5 heures. À peu près, hein? Alors l'ado est là, il attend 5 heures, il regarde, pas de papa, je cherche la voiture familiale, je ne la vois pas, on se met un peu dans la rue, non, il ne vient pas. 5h05. Il vient par là, peut-être qu'il viendrait par là-bas. 5h15. 5h20, le papa arrive. Excuse-moi. Tu m'as dit 5h, c'est 5h20, 20 minutes, j'ai perdu ma... Ça va être un mauvais trajet pour rentrer à la maison. Pendant des heures. Maman, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait comme toi, papa. Il m'a dit à 5h, 5h20, il a dit... Que c'est magnifique quand le papa arrive à 5h20. Ah, papa, te voilà. Je t'attendais. Content que tu sois là. C'est mieux. Dieu nous permet parfois de vivre dans les choses d'attente. On est dans l'attente de choses. Il y a des choses que j'attends aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez. Le plus tôt possible sera le mieux. Et le Seigneur dit, c'est pas mon avis. Je vais te faire attendre. Est-ce que tu sais attendre? Seigneur, mais attends, j'ai une montre là, et il faut que ça marche là, Seigneur, et tu, il y a des heures, Seigneur, est-ce que tu n'as pas d'heure là-haut? Non, j'ai pas de montre, dit le Seigneur, je suis en dehors du temps. Mais Seigneur, ça presse, ah, ça presse. On peut encore attendre alors. Jusqu'à ce qu'on arrive à dire, Seigneur, ça ne presse pas. Quand tu voudras. Dieu n'a jamais été en retard pour rien. il ne sera jamais en retard pour vous. Mais ceux qui recherchent cette attitude d'attente patiente et joyeuse. C'est très important pour lui de voir cette attitude chez nous. C'est une preuve de caractère quand nous savons attendre sans nous énerver. Comment est-ce que vous êtes devant un feu rouge? Je ne parle pas aux femmes, mais les hommes. Surtout quand la voiture devant vous a calé. C'est pas si au vert. Les voitures viennent comme ça, les voitures vous êtes entourées, et vous dites, je vais rater, j'ai 5 minutes de retard pour le boulot. Ça, c'est pas la faute du feu rouge, c'est de votre faute, mais c'est pas grave. Vous arrivez au boulot, mais il y avait un feu rouge, il y avait un gars qui avait calé, j'ai perdu. Combien vous avez perdu? 3 minutes. Oui, vous êtes une demi-heure en retard. Vous connaissez ça? On va blâmer les autres pour le retard qu'on aurait pu prévenir. Mais, quelquefois, une salle d'attente, vous êtes chez le médecin. Vous entrez, il y a 12 personnes. Je ne vais pas me farcir sur toute cette attente. Non, attends là. Oh, 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 oh. Non. Vous avez appris à attendre avec Dieu et vous installez. Priez, vous parlez avec les gens. Cette heure d'attente, c'est Dieu qui vous la donne. Dans un fauteuil, tranquille, dans un local bien éclairé. Que demander de plus? C'est sympa. On peut attendre. On entrera quand on entrera. Nous n'avons pas cette habitude, mes amis. Notre société n'est pas comme ça. Mais Dieu veut que nous soyons comme ça. S'il ne s'agit pas de perdre du temps, mais quand on ne peut pas faire autrement, quelle attitude avons-nous? Dans l'épreuve, quelle attitude avons-nous? Il dit, je vais attendre, Seigneur, je vais attendre patiemment. Verset 27, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Je pense que ça veut dire aussi dans le cadre de la souffrance, si vous savez qu'une épreuve va vous arriver, essayez de le repousser. Par exemple, les étudiants, ils savent ce que c'est que les épreuves. On les appelle des épreuves même à l'école, hein, des tests. Et on sait qu'il faut se préparer pour l'épreuve. Et il y en a plein qui, la nuit avant l'épreuve, « Ah, j'ai un test demain !» Ils ont passé la semaine à regarder des DVD. Mais, « Ah, il faut que je bûche, là, mais je n'ai qu'une nuit et tout !» On a repoussé le temps d'étude le plus tard possible. Il y a quelque chose sur votre assiette que vous n'aimez pas manger. Vous le mangez en dernier, lentement. C'est déjà froid, c'est encore plus dégoûtant. Mais vous le repoussez. Le Seigneur dit, ne repoussez pas les moments difficiles. Passez-les quand c'est le moment de les passer. Les repousser à plus tard ne vous arrangera pas. Faire face au travail que nous avons à faire, faire face à nos responsabilités, les prendre à bras le corps avec l'aide de Dieu, ne pas les repousser, ne pas prétendre qu'on ne les a pas vus, les accepter comme venant de Dieu. Versets 28 et 30, nous arrivons à la fin, mais regardez ce que disent ces versets. Verset 29, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus-Christ. Il a mis sa bouche dans la poussière. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il a livré sa joue à ceux qui le frappent. Mais aujourd'hui, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans l'épreuve, nous ressemblons un petit peu à Jésus-Christ. Parce que Jésus était l'homme des douleurs et habitué à la souffrance. Notre épreuve est parfois pour nous une discipline de la part de Dieu pour forger notre caractère et notre persévérance. Le Seigneur ne le fait jamais par plaisir, mais uniquement par nécessité. C'est verset 33. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Notre consolation vient en comprenant le caractère de Dieu. Comment est mon Dieu? Comment pense-t-il? Dieu, il préfère me bénir. Il préfère me faire du bien. Mais il me châtiera s'il trouve que c'est nécessaire. il n'hésitera pas une seule seconde à me châtier si par là il peut me rendre meilleur. Ce châtiment est formateur. C'est pas un jugement définitif. C'est pas une claque donnée avec la colère. C'est un châtiment bien mesuré, bien dosé, dont le but est de me rendre un meilleur enfant de Dieu. À travers les circonstances difficiles que je peux connaître, le Seigneur veut me rendre plus comme lui. Alors permettez ce matin à Jérémie, j'espère que ce prophète est devenu un de vos amis ce matin. J'espère que vous reviendrez, que vous relirez Lamentations chapitre 3. Laissez-le vous consoler comme vous êtes abattu. Dieu, notre Dieu, est toujours le même. Le Dieu de Jérémie, c'est votre Dieu. Et sa manière d'éduquer est inchangée, parce que c'est la meilleure manière. Notre Dieu œuvre pour notre bien ultime et pour sa gloire. Que son nom soit béni. Prions.